Je vais faire un petit mot pour démarrer. Donc, ce sont les conférences de Benjamin Science, en fait, c'est la suite. Donc, mardi, c'était Françoise Héritier. Et puis aujourd'hui, on accueille Jean-Pierre Bourguignon, qui est un très très grand mathématicien. Je le dis souvent, ça fait la quatrième année, mais j'ai rarement invité les mathématiciens avec Jean-Jacques Pellegrini, c'est le deuxième. Moi, je suis prof de maths et bon, je disais à Jean-Pierre Bourguignon, c'est le deuxième mathématicien que j'invite. Alors le premier, c'était Michel Brouet, là, c'est Jean-Pierre Bourguignon. Je vais laisser faire la présentation à Yves-Olivier, mais je voulais juste vous dire que pour moi, l'invitation, c'était avant tout, c'est un homme exceptionnel sur ce qu'il fait. Il dirige l'IHESS, on va vous dire un peu tout ça, mais c'est un très grand mathématicien, mais pas seulement un très grand mathématicien. Si c'était que ça, ça ne me suffirait pas en fait à nous. C'est aussi un homme exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Et Françoise Héritier, qui était là mardi, me disait « Qu'est-ce que je regrette de ne pas rester ?» Et pour écouter Jean-Pierre Bourguignon, et que Françoise Héritier dise ça de Jean-Pierre Bourguignon, ça donne toute la dimension de qui on invite aujourd'hui.
Merci. Donc, il me revient l'honneur de vous présenter Monsieur Bourguignon. Monsieur Bourguignon, notre chemin s'est croisé plusieurs fois dans notre vie professionnelle, et c'est toujours avec un grand bonheur que je peux vous rencontrer et participer à et écouter vos conférences. Alors, je voudrais vous le présenter en indiquant que M. Bourguignon a été président de la Société mathématique de France, c'est-à-dire la société qui regroupe l'ensemble des chercheurs en mathématiques. Il a été président de la Société mathématique européenne, donc la société mathématique qui regroupe l'ensemble des chercheurs. Il est reconnu internationalement dans la façon dont il met en relation les chercheurs des différents pays et la façon dont il rencontre de la vie des mathématiques à notre époque. Il est directeur naturellement de recherche au CNRS. Il est spécialiste de géométrie différentielle. Disons que c'est un mélange à la fois d'analyse et de géométrie, je dirais d'une façon simpliste, parce qu'on a là affaire à des objets relativement complexes. Et il est également directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, qui est un institut à Gif-sur-Yvette, qui est un lieu qui accueille un certain nombre de chercheurs dans tous les domaines de la science. Voilà. C'est donc avec plaisir que, en remerciant naturellement les organisateurs de nous offrir ce moment unique, c'est avec plaisir que je vous laisse la parole, Jean-Pierre.
Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir parler après ça, mais je vais essayer de le faire quand même. Donc, je suis très très heureux de cette invitation, de pouvoir rencontrer des jeunes qui s'intéressent aux mathématiques et de visiter la ville d'Orléans. Donc, l'exposé que je voudrais faire aujourd'hui porte un titre un peu bizarre, comme vous avez peut-être découvert déjà sur des affiches, dans lesquelles il y a un mot qui est peut-être, qui vous est peut-être inconnu, que je vais essayer de rendre concret, et puis une expression qui apparemment n'appartient pas aux mathématiques, parce que vient faire la fumée dans un problème de mathématiques. Et donc, c'est délibérément parce que j'ai voulu donner un titre énigmatique que j'ai choisi ce titre. Donc, en fait, quand on regarde ce qu'il y a derrière, il y a derrière l'histoire d'un problème de géométrie extrêmement concret, de géométrie tout à fait classique. Et donc, évidemment, j'ai passé un petit peu de temps à le formuler, mais vous verrez que la formulation est très simple. Comment ce problème a été résolu en 1977, donc il y a quand même très très peu de temps. Comme directeur de l'IHES, évidemment, je suis très heureux que l'IHES ait joué un rôle dans la résolution de ce problème. Que cette solution, comme vous verrez, du problème, en fait, a été considérablement raffinée. Y compris, vous verrez qu'il reste une question ouverte, donc si quelqu'un a la solution à la fin de la séance, je suis preneur. Et enfin, je voudrais montrer comment ce problème, la résolution de ce problème, en a amené un autre. Et c'est cette autre formulation, ou plutôt cette formulation complémentaire, qui est la raison du titre. Donc voilà un peu les points que je voulais mettre en avant, et qui est donc le sorte de, à la fois le plan et le résumé de ce que je voudrais vous dire. Donc la formulation du problème. Alors, je ne vais pas vous surprendre beaucoup en disant qu'en géométrie, dès qu'on est sorti d'une dimension, dès qu'on a fini de regarder des segments ou des droites, on s'intéresse au plan. Et dans le plan, la figure la plus simple, c'est le triangle. Et un triangle, comme vous le savez, est déterminé par la longueur de ses côtés. Donc j'ai appelé triangle ABC, j'ai appelé les côtés évidemment petit a pour le côté opposé au sommet grand A, petit b pour le côté opposé au sommet grand B et petit c pour le côté opposé au sommet grand C. Et comme vous le savez aussi, j'en suis sûr, vous savez bien que quand on se donne trois longueurs, il y a toujours un triangle qui a ses côtés comme longueur à condition que ces côtés vérifient un certain nombre d'inégalités qu'on appelle les inégalités du triangle. Et vous les connaissez bien, ben il faut que la somme de A plus C soit plus grande que B, et puis toutes les inégalités de ce genre que vous pouvez faire. Et dès que vous avez trois nombres qui vérifient ces trois inégalités, alors automatiquement, vous trouvez un triangle qui vérifie, qui a ces trois nombres comme longueur de ses côtés. Voilà. Alors la première chose donc que je viens de dire, c'est qu'un triangle est déterminé par la longueur de ses côtés. Et d'une certaine façon, quand on regarde la façon dont on peut construire un triangle dans ces conditions, les inégalités dont je parlais sont très très évidentes si vous voulez le construire. Puisque commencez par prendre un segment de longueur petit a, ça c'est facile. À partir des extrémités du segment, d'un côté vous portez un cercle de longueur petit b. De l'autre sommet, vous portez un cercle de longueur petit c. Évidemment, les conditions d'inégalité sur les côtés du triangle vont être exactement ce dont vous avez besoin pour que les deux cercles que je viens de tracer se coupent. Évidemment, si la somme des deux rayons des cercles est plus petite que l'autre côté, les cercles ne vont pas se couper. Donc, alors vous voyez qu'à ce moment-là, vous pouvez construire en fait deux triangles parce que les cercles se coupent toujours en deux points. Sauf si on est exactement dans le cas d'un triangle dégénéré où la somme de B plus C est égale à A, auquel cas le contact a lieu juste le long du segment, le triangle est aplati complètement, les deux côtés sont confondent avec le segment initial, mais si ce n'est pas le cas, vous avez deux triangles, mais en fait ces deux triangles sont vraiment, comme on dit, isométriques, je peux les superposer l'un à l'autre, ils sont d'ailleurs symétriques par rapport à la droite qui porte le segment de départ. Donc vous voyez que il n'y a pas de problème de flexibilité dans les triangles. Un triangle, dès que je me suis donné trois longueurs et que les longueurs vérifient les inégalités que j'ai dites, automatiquement, le triangle est déterminé comme figure géométrique. Autrement dit, à déplacement près, comme le disent les mathématiciens. Une autre propriété que je voudrais donner, qui est bien connue, que vous connaissez bien, c'est qu'un triangle est une figure géométrique convexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je prends deux points sur le bord du triangle, donc sur deux côtés, eh bien, le segment qui joint ces deux points est tout entier contenu dans le triangle. Alors c'est évident si les deux points que je prends sont sur le même côté, parce qu'on retrouve un petit bout du segment qui était l'un des côtés. Et puis, au contraire, si les deux points sont sur deux côtés distincts, eh bien, on reste à l'intérieur du triangle. Et donc, alors une autre chose que vous connaissez peut-être aussi, même si la géométrie euclidienne a un petit peu pâli de son prestige d'antan, c'est qu'on peut calculer la surface d'un triangle par une formule qui ne fait intervenir que les côtés. Alors la formule qu'on vous a probablement apprise, ce n'est pas celle que je vais vous donner, mais je trouve que c'est bien dommage, parce que je trouve que celle que je vais vous donner est plus intéressante. Donc la surface d'un triangle, c'est 1,5 de la racine carrée d'un produit de 4 nombres, qui sont la somme des côtés, ensuite, la somme de deux côtés moins le troisième. Et comme il y a trois façons de prendre la somme de deux côtés moins le troisième, ça vous avez trois termes. Et comme par hasard, vous souvenez quand j'ai parlé de l'inégalité sur les côtés du triangle, les trois facteurs qui sont là sont exactement des nombres positifs parce que les longueurs des côtés vérifient l'inégalité du triangle. D'accord ? Donc voilà. Et donc la surface, qui est une quantité, comme on dit, qui est une aire, hein, donc c'est une quantité qui est quadratique, qui n'est pas par rapport aux longueurs. Une aire, c'est un carré de quelque chose. Eh bien, ici, ça apparaît comme effectivement bien quadratique, puisque vous avez une quantité de degré 4 dans les longueurs du triangle, dont on prend la racine carrée. Donc degré 4 divisé par 2, ça fait degré 2, donc c'est plausible. Alors en fait, je vous propose même, comme petit exercice mental, c'est de retrouver cette formule. Et en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles la surface peut être nulle pour un triangle? Eh bien exactement, quand le triangle dégénère, si on a un triangle qui est complètement aplati, évidemment qu'il n'y a pas de surface. Et quand est-ce que le triangle est aplati? Ben, c'est exactement quand la somme de deux côtés est égale au troisième. Autrement dit, un des trois facteurs qui apparaît là est nul. Alors évidemment, vous me direz, mais oui, mais pourquoi il y a A plus B plus C? Donc là, il faut réfléchir un petit peu plus. En fait, on peut chercher que, évidemment, la formule qui donne la surface du triangle doit contenir les côtés, les longueurs des côtés, de façon complètement symétrique. Donc voilà, et quelle est la seule quantité complètement symétrique qui soit linéaire dans les longueurs des côtés? Ben, c'est simplement la somme des trois longueurs. Donc a priori, par un raisonnement complètement, en regardant les cas limites, les triangles dégénérés, puis sachant qu'une surface c'est une quantité quadratique, on sait que ça doit être proportionnel à ce qu'on a écrit ici. Alors vous me direz, mais il y a un demi là-dedans, d'où il sort le demi? Et ben, la bonne façon de le faire, c'est de prendre le triangle le plus simple, autrement dit triangle équilatéral, et puis vous connaissez la formule pour le triangle équilatéral, vous regardez ce qu'il y a à droite et vous trouvez que ce qui vous manquait comme facteur, c'est 1,5. Évidemment, il y a d'autres démonstrations de cette formule. Je pense que vous avez dû en rencontrer dans votre vie, qui c'est un calcul habituel du caché derrière, il y a le calcul du sinus d'un angle dans un triangle. Voilà. Donc, je suis parti de cette figure très simple. Maintenant, si je continue dans le triangle, il y a des figures plus compliquées, par exemple des quadrilatères. Eh bien, les deux propriétés que j'ai évoquées avant pour le triangle, à savoir que le triangle est une figure convexe et que le triangle est une figure rigide, n'est plus vrai pour les quadrilatères. Donc, vous voyez bien que le quadrilatère qui est à gauche, évidemment, n'est pas convexe, parce que si je prends le segment qui joint la pointe en haut et la pointe en bas, tout ce segment est à l'extérieur du quadrilatère, donc il n'est pas convexe. Et puis, évidemment, il est pas rigide, parce que vous voyez bien que vous pouvez articuler par rapport au sommet qui est rentrant, vous pouvez articuler ce quadrilatère. Et puis, c'est même encore plus visible le côté, comment dire, non rigide, évidemment, sur le parallélogramme. Un parallélogramme, ça peut s'aplatir ou devenir rectangle, comme vous voulez. En tout cas, c'est clair qu'on peut le déformer en changeant sa géométrie, mais sans changer la longueur des côtés. Donc c'est ça la règle du jeu qu'on va se donner. On va s'intéresser à des figures géométriques dont on va fixer, disons, la forme de certaines parties, et on va s'intéresser, est-ce que le tout peut changer comme objet géométrique? Autrement dit, d'abord, donc les quadrilatères se déforment, c'est ce que je viens de dire, même s'ils sont convexes, le parallélogramme est parfaitement convexe, mais il se déforme. Et par ailleurs, évidemment, dans le cours de la déformation, la surface du parallélogramme change. Le pire étant que si j'aplatis mon parallélogramme, ça va même pouvoir être zéro. Voilà. Donc, les remarques que je voulais faire dans le plan. Maintenant, je passe à trois dimensions, et c'est vraiment à trois dimensions qu'on va regarder le problème, même si, comme vous savez, les mathématiciens aiment bien travailler dans des espaces à plus de trois dimensions, donc ce que je raconte est aussi intéressant à plus de trois dimensions, mais on va s'arrêter à trois dimensions aujourd'hui. Et donc, je m'intéresse à la figure la plus simple à trois dimensions, qui généralise le triangle, qui est le tétraèdre. Donc, le tétraèdre, c'est tout bête, c'est un assemblage de 1, 2, 3, 4 triangles, et... Donc c'est une figure géométrique à trois dimensions qui a quatre sommets, six arêtes et quatre faces. Par ailleurs, c'est évidemment un polyèdre convexe, donc on retrouve la propriété qu'on avait dans le triangle. Si je prends deux points quelconques sur la surface du tétraèdre, donc appartenant à une de ses faces, eh bien le segment qui joint ces points est tout entier contenu dans le tétraèdre. Donc c'est bien un polyèdre convexe. Et par ailleurs, il est rigide. Et la démonstration de la rigidité du tétraèdre est très très analogue à la démonstration de la rigidité du triangle. Pourquoi? Ben imaginez que vous prenez la face, le plus grand triangle là, comme base, il est dans un plan, et puis vous fabriquez les trois faces qui sont donc le petit triangle à gauche, le triangle un peu allongé, puis l'autre triangle qui est derrière, et puis vous les faites pivoter. pivoté autour des arêtes qui sont dans le plan du très grand triangle. Et puis, vous voyez bien qu'il y a un seul moment où les faces se rencontrent. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a deux, puisque soit on le fait pivoter par en dessus du plan ou par en dessous du plan. Mais encore une fois, les deux tétraèdes qu'on construit sont deux tétraèdes qui sont isométriques. Autrement dit, je trouve un déplacement de l'espace à trois dimensions, des isométries de l'espace à trois dimensions qui envoient un tétraèdre sur l'autre. Donc, on est de nouveau dans le cadre d'un polyèdre rigide. Donc, évidemment, je vais parler de polyèdre. Donc, maintenant, un résultat important qui va nous emmener un petit peu loin dans l'histoire, c'est un théorème dû à Louis-Augustin Cauchy. Alors, je ne sais pas à quel point Cauchy vous est un homme familier. Ce n'était pas un monsieur très sympathique, hein, mais en tout cas, il a fait des mathématiques de façon très brillante. 1813, c'est pratiquement juste après sa thèse. Et donc, il a démontré le théorème suivant. On est toujours à trois dimensions. On s'intéresse à un polyèdre. On lui impose d'être convexe. Et théorème, alors, il est rigide. Autrement dit, on ne peut pas le déformer en gardant ses faces rigides. Donc ça, c'est un très joli théorème. Alors, la démonstration est assez géométrique. Elle consiste vraiment à analyser les angles dièdres, c'est-à-dire les angles que font les faces, et à montrer que, justement, quand on s'est fixé les arêtes, eh bien, les angles que font les faces sont déterminés. En fait, c'est un travail qui était la conclusion de travaux commencés auparavant, en particulier par celui qui a été le maître de Louis-Augustin Cauchy, qui était Adrien-Marie Legendre, et mathématicien tout à fait important, moins important que Cauchy peut-être, mais... Et donc maintenant, la question qui se pose, qui est donc à la base de l'exposé, c'est: existe-t-il des polyèdres flexibles ? Cauchy nous a dit déjà que si un polyèdre est convexe, alors il est rigide. Donc évidemment, je vais être obligé d'abandonner l'hypothèse de convexité, puisque si je rajoute convexe, c'est rigide. Et c'est raisonnable qu'on appelle un polyèdre flexible un flexaèdre. Donc la question qui se pose, et qui s'est posée depuis Cauchy, c'est: existe-t-il des flexaèdres ? Voilà, donc c'est mon problème est posé, et donc j'en arrive à la solution du problème. Et voilà. Donc les premiers flexaèdres qui ont été découverts à la fin du 19e siècle par quelqu'un qui était autant un ingénieur qu'un mathématicien, qui s'appelle Raoul Bricard, et qui s'est particulièrement intéressé aux octaèdres. Donc un octaèdre, hein, vous voyez ce que c'est, vous en avez ici. Il a en particulier trouvé des octaèdres qui étaient flexibles. Mais pour qu'ils soient flexibles, en fait, il était indispensable que... De toute façon, vous voyez que la façon dont il le fabriquait, c'était comme un montage de tiges. Évidemment, une fois qu'on a regardé les côtés comme des tiges, ça rigidifie les côtés, à cause du théorème sur les triangles que j'avais évoqué. Mais par contre, ceux qu'il a trouvés qui étaient flexibles, ils avaient le mauvais goût de ne pas être des vrais polyèdres. C'est-à-dire qu'en fait, les faces s'interpénétraient. Donc au sens où on a envie de voir des polyèdres, il y avait donc une petite lacune qui était que, bon, ok, si je pensais à un polyèdre strictement, quand on dit polyèdre, ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment aux angles dièdres, là, vous voyez, on s'intéressait plutôt à un montage à partir de côtés. Et donc c'est ça la difficulté que rencontrait Bricard. Il avait visiblement mis la main sur quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, ça ne résolvait pas le problème qu'on voulait résoudre, qui était de la fabrication de flexaèdres, autrement dit de polyèdres flexibles. Et alors le théorème donc, est venu en 1977 d'un chercheur américain qui s'appelle Robert Connelly. Et donc il a fabriqué un flexaèdre à 18 sommets. Et c'est intéressant de voir comment ça s'est produit, et je le détaillerai un petit peu plus tard. Et lui, il utilise des morceaux d'octaèdre de Bricard pour justement arriver à articuler des plans, et qui ensuite, comme il en prend que des morceaux, finalement la difficulté que Bricard avait rencontrée, à savoir que les faces se recoupaient, et ben, il arrivait à se débarrasser de la partie où les faces se recoupent en les montant dans un polyèdre un peu plus compliqué. Alors j'en ai apporté un pour vous faire voir à quoi ça ressemble. mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vais le montrer après avoir parlé un petit peu de l'IHES. Donc je vous rappelle, Connelly a résolu ce problème, donc il a fabriqué les premiers flexaèdres en 1977. Et voilà, donc pourquoi l'IHES est impliqué là-dedans? En fait, Connelly était invité à l'IHES pendant l'année 75-76. Donc l'IHES est un institut de recherche dans lequel il y a des mathématiciens, des physiciens, depuis une dizaine d'années aussi des biologistes, théoriciens, ou des biologistes expérimentaux, mais qui font pas d'expérience chez nous, mais viennent juste pour discuter de théorie. Et on a donc, comme ça, tous les ans, à peu près 200 à 250 visiteurs qui viennent, toujours plus de 30 pays représentés, donc très très international. Et donc, un des professeurs permanents, Dennis Sullivan, qui est là, dont je dirai un mot un peu plus tard, qui n'est plus professeur permanent à l'IHES maintenant, qui est installé aux États-Unis, avait invité Connelly, et Connelly voulait discuter avec lui de ces histoires de polyèdres. Et en fait, ils ont fait beaucoup de tentatives, mais ils n'avaient pas trouvé de solution. Donc, Connelly était rentré chez lui un petit peu déçu, puisque ce séjour de discussion intense n'avait pas abouti à la solution du problème qui le passionnait. Et quand même, en fait, à partir des discussions qu'il a eues en 75-76, comme j'ai dit, en 77, mais en fait, en juin 77, il trouve enfin son contre-exemple. Et alors, donc, pour vous donner une idée de la personne qui occupe la place que j'occupe maintenant, directeur de l'IHES, qui est un Hollandais, Nicolas Kuiper, a fait publier cet article aux Publications mathématiques de l'IHES, qui est une revue mathématique, dont voilà la face. Et donc, vous voyez, c'est le dernier article du volume 47 des Publications mathématiques. A counter-example to the rigidity conjecture for polyhedra, un contre-exemple à la conjecture de rigidité pour les polyèdres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, voilà comment ça se présente, l'article, c'est la première page. Donc, il commence par poser le problème, il discute évidemment en Cauchy et un certain nombre d'autres choses. Et après, il décrit la construction d'un octaèdre flexible en partant de Bricard, mais ensuite en allant au-delà. Donc voilà le fameux flexaèdre. Donc je vais être obligé de poser mon micro, parce que sinon je vais avoir des soucis. Donc je vous ai apporté un flexaèdre qui a été obligatoirement fabriqué pour l'IHES par EDF. Donc, voilà, donc c'est un objet qui est conforme à ce que vous avez dit à la communauté. Vous voyez, il contient ici un morceau d'octaèdre de Bricard. Il y en a un autre ici, et ceux-là sont articulés, donc je vous fasse voir que c'est vraiment un flexaèdre. C'est pas juste le manque de rigidité des faces qui fait que ça bouge, et que ça bouge beaucoup plus que... Donc voilà un exemple de flexaèdre. Un exemple de flexaèdre, mais on ne va pas s'arrêter là, ce serait... Ça serait pas intéressant mathématiquement de s'arrêter là. Donc voilà quelques photos du flexaèdre que vous avez là sous les yeux. En général, quand je fais sa conférence, je ne peux pas transporter le flexaèdre. Là, je suis venu en voiture, donc c'était plus facile à transporter. Et alors, en fait, la question qui se pose, comme toujours, celui-là, celui construit par Connelly, avait 18 sommets, comme j'ai dit. Est-ce qu'il y a des flexaèdres avec moins de sommets? Donc, très très vite, Kuiper, dont j'ai déjà parlé, et Pierre Deligne, qui est aussi un des professeurs permanents de l'IHES, plutôt spécialiste de théorie des nombres, d'ailleurs, a construit un flexaèdre beaucoup plus simple avec 11 sommets. Mais en fait, le progrès, le meilleur qu'on ait aujourd'hui, c'est un chercheur allemand qui s'appelle Klaus Steffen, pendant son séjour à l'IHES d'ailleurs, qui a construit un flexaèdre avec 9 sommets. Donc là, je vous donne une idée de à quoi il ressemble. Voilà Klaus. Et voilà ce flexaèdre à 9 sommets que vous voyez là, dont un patron... Voilà, donc voilà un patron qui montre comment on le fabrique. Qu'est-ce que ça veut dire un patron? C'est simplement, comme toujours, on peut fabriquer les polyèdres à partir de découpage dans le plan. Ensuite, on fait des pliures et on colle les arêtes les unes avec les autres. Donc vous voyez, celui-là se fabrique avec deux exemplaires de ça et ensuite un élément de plus. Donc on a deux copies de ce qui est à gauche deux copies de ce qui est là, donc en fait qui fait l'élément là, et on vous décrit comment on les recolle, et on vous explique comment la flexion, le caractère flexible se produit. Et alors du coup, une des questions qui se pose, alors je vais en arriver à mon titre, une des questions qui se pose, c'est: existe-t-il un flexaèdre à 8 sommets? On a démontré qu'il n'y a pas de flexaèdre à 7 sommets, et donc question ouverte, si ça amuse certains d'entre vous, en tout cas c'est une construction qui suppose qu'il y a besoin d'être un petit peu diabolique, puisque évidemment un certain nombre de gens se sont frottés à cette question et ne sont pas arrivés à savoir s'il existait des polyèdres flexibles avec 8 sommets. Alors maintenant j'en arrive à mon deuxième partie de mon titre, qui est ce titre un peu bizarre, les flexaèdres fument-ils ? Alors en fait, vous avez vu que cet objet-là, que je vous ai montré, on avait mis des trous dans les côtés, d'abord c'est plus facile pour le tenir, avec la poignée qui était là, c'est cassé, mais surtout c'est plus facile pour le tenir, et surtout c'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Si on n'avait pas fait de trous, on voit ce qui se passe à l'extérieur, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'idée des trous, c'est ça. Mais en fait, la légende veut, Dennis Sullivan m'a dit qu'il en était plus sûr, que c'était bien comme ça que ça s'était passé, mais en tout cas, la légende veut que Sullivan, qui fumait la pipe à ce moment-là, plus interdit maintenant dans les locaux scientifiques, mais en tout cas, a soufflé la fumée de sa pipe à l'intérieur du flexaèdre, puisqu'il y avait des trous, on pouvait le faire, a fait bouger le flexaèdre et a constaté que la fumée ne sortait pas. Donc du coup, ça pose une question très naturellement, c'est que quand on fait une déformation du flexaèdre et que la fumée ne sort pas, l'interprétation que ça a, c'est qu'en fait le volume intérieur au flexaèdre, quand on le déforme, ne change pas. Donc ça c'est une question qui n'est pas du tout évidente. Quand vous regardez votre flexaèdre, donc il y en a plus, enfin d'une certaine façon, un flexaèdre c'est justement un polyèdre, c'est plusieurs polyèdres puisqu'ils se déforment. D'accord ? Et la question qui se pose, c'est que durant la déformation, est-ce que le volume intérieur change ou ne change pas ? Vous avez bien vu que quand on regardait le parallélogramme et qu'on le déformait, le parallélogramme, eh bien, la surface changeait, puisque même ça pouvait devenir zéro. Vous pouvez s'aplatir complètement. Donc la question qui se pose pour les polyèdres flexibles, c'est: dans une déformation, est-ce que le volume intérieur change ? Et donc, alors, très concrètement, par un raisonnement tout à fait ad hoc, Connelly est arrivé à démontrer que ce flexaèdre-là ne fumait pas, comme je dis, c'est-à-dire que son volume intérieur ne changeait pas lors d'une variation. Mais du coup, était née une conjecture qui a quand même tenu 20 ans, qui était ce qu'on appelle la conjecture du soufflet. Autrement dit, est-ce que dans leur déformation, les flexaèdres changent de volume ou ne changent pas ? S'ils ne changent pas de volume, on peut dire que les flexaèdres ne fument pas. Puisque si on met de la fumée, qu'on bouge, la fumée ne sort pas. Alors, on peut se poser des questions, parce qu'il y a quand même plein d'exemples où on peut fabriquer des polyèdres généralisés qui se déforment et qui sont au contraire, où c'est évident que le volume est conservé. Donc j'en ai mentionné un ici, qu'on appelle souvent un kaléidocycle. Comment c'est fait ? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est fait comme on prend un tétraèdre, et ensuite on articule, suivant une des arêtes du tétraèdre, un autre tétraèdre. Et puis ensuite on a une autre arête ici. Donc on a, si vous voulez, une sorte de chapelet de tétraèdres qui sont articulés suivant un côté. Et évidemment, alors en fait ces structures-là sont effectivement très, très déformables. On peut les tourner sur elles-mêmes. Mais évidemment que le volume ne peut pas changer, puisque à chaque fois ce que j'ai, c'est simplement j'ai mon collier de tétraèdres. Et chaque tétraèdre, il est rigide, je l'ai déjà dit. Donc là, j'ai qu'à compter le nombre de tétraèdres que j'ai, et ça m'assure que le volume de ce polyèdre flexible ne peut pas changer. Alors vous me direz, c'est pas un vrai polyèdre, parce que je triche un peu, puisque le long de l'arête ici, vous voyez que le polyèdre, il est un peu pincé, on l'a un peu écrasé. Les tétraèdres sont juste collés les uns aux autres par une arête. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc si vous voulez, c'est quand même un polyèdre un peu dégénéré. Mais en tout cas, pour celui-là, c'est évident que quand on le déforme, le volume ne peut pas changer. Donc j'en arrive au théorème du soufflet. Donc, ce que j'annonce, c'est que la conjecture du soufflet se résout positivement. Autrement dit, les flexaèdres ne fument pas. Alors, la chose très très étonnante, c'est qu'en fait, c'est question de volume. Donc, l'analogue de la formule de Héron pour le triangle, ça existe pour le tétraèdre. Donc, si je prends un tétraèdre ABCD, apparemment, la première personne qui a découvert la formule qui donne le volume du tétraèdre, c'est Tartaglia. Donc, une des personnes qui a joué un rôle important dans la résolution des équations du troisième degré. Au XVIe siècle, et Léonard Euler a retrouvé ça. Donc là, je vous ai écrit la formule sous forme d'un déterminant d'une matrice, donc c'est peut-être un peu dépaysant pour vous. En tout cas, ce que j'ai écrit, c'est uniquement les carrés des longueurs, et ensuite, après, dire qu'on fait det, comme j'ai écrit devant, déterminant, c'est vraiment un procédé de calcul très très bien connu, qui consiste à multiplier les éléments sous forme de diagonale descendante ou de diagonale montante en mettant les signes qu'il faut pour que ça marche. Et donc ce déterminant, visiblement, c'est une quantité qui est quadratique qui est de puissance 6 par rapport aux longueurs des côtés, puisque sur chaque diagonale descendante ou montante, vous avez forcément 3 longueurs qui sont multipliées, elles apparaissent au carré. Donc c'est des quantités de degré 6. Le volume, il est de degré 3. Mais ce que j'ai écrit à gauche, vous voyez, c'est un carré du volume. Alors vous me direz, diable, pourquoi 1 sur 288 ? Ben, ma réponse va être la même que celle que j'ai faite pour la formule d'Héron. Pourquoi 1/2 devant racine de A plus B plus C, etc. Tout simplement, vous allez prendre le tétraèdre le plus simple, qui est le tétraèdre équilatéral, enfin le tétraèdre équilatère, celui dont toutes les faces sont des triangles équilatéraux. Et puis celui-là, vous pouvez calculer son volume très explicitement. Évidemment, à ce moment-là, les A carré, AB carré, AC carré, AD carré sont tous des quantités égales. Donc vous pouvez calculer très très facilement son volume. Et là, ça vous vend le coefficient qui est devant. Donc, la question, c'est comment peut-on généraliser cette formule qui détermine le volume strictement en connaissant les longueurs des côtés à d'autres polyèdres ? Alors en fait, la réponse n'est pas si simple, et en tout cas c'était une énorme surprise pour beaucoup de gens, qu'en fait on peut arriver à trouver ce volume du polyèdre par découpage en tétraèdre. Le problème, c'est quand vous donnez un polyèdre, il y a visiblement plusieurs façons de faire ce découpage, et que du coup, comme il y a plusieurs façons de le faire, ça paraît pas une bonne démarche, puisque on se dit, mais comment ça se fait que je vais trouver le même résultat au bout du compte si j'ai plusieurs façons de découper un polyèdre en tétraèdre. Alors en fait, il y a un théorème qui a été obtenu en 96, vraiment la démonstration lisible est apparu en 97, toujours dans lequel Connelly joue un rôle, et un mathématicien autrichien et un mathématicien russe qui s'appelle Sabitov et Waltz. Et donc voilà, il y a un résultat extraordinaire, c'est que on peut calculer le volume d'un polyèdre, et exactement donc l'énoncé, c'est celui-là, le carré du volume d'un polyèdre est racine d'une équation polynomiale dont les coefficients s'expriment à partir des carrés des longueurs des arêtes. Donc évidemment, si vous... comment ça se passe ? Donc vous intéressez à un flexaèdre. Si vous faites déformer le flexaèdre, ça veut dire que vous ne changez pas les côtés comme triangle. Donc si vous ne changez pas les côtés comme triangle, vous ne changez pas les longueurs des côtés du triangle, donc les longueurs des arêtes du polyèdre. Et si ce théorème est vrai, ce que j'affirme, eh bien, ça vous dit que pour trouver le volume du polyèdre, en fait, ça va être une racine d'un polynôme dont les coefficients se calculent strictement à partir des carrés des longueurs des arêtes. Donc, si je n'ai pas changé les longueurs des arêtes, je ne change pas les coefficients du polynôme. Mais maintenant, je fais une déformation continue. C'est facile de démontrer que quand je fais flexer le flexaèdre, quand je le fais déformer, évidemment que si le volume devait se transformer, il se transforme continuellement. Mais les racines d'un polynôme, c'est des nombres. Si le polynôme est de degré n, il y a n racines dans les bons cas. Et donc, c'est des nombres isolés. Donc quand je déforme le polyèdre, je ne change pas les coefficients, donc les racines sont fixes. Eh bien, il n'est pas question que je saute d'une racine à une autre. Donc ça veut dire que le volume du polyèdre est bien défini. Alors en fait, quand vous, de toute façon, on peut considérer cette formule qui est un petit peu compliquée, faut que j'en dise un petit peu plus sur elle, comme une généralisation de la formule de Héron ou de la formule de Tartaglia, en cela que j'ai besoin pour fabriquer le polynôme dont je parle, vraiment d'un patron du polyèdre, et que je dise quelles sont les règles de recollement que je fais sur le patron. C'est pour ça que, par exemple, c'est pas parce qu'un polyèdre a tant de côtés que le degré du polynôme, par exemple, est fixé par le nombre de côtés. Le degré du polynôme va être fixé par le patron qui me permet de reconstruire le polyèdre. Et alors, une autre chose qui est intéressante par rapport à ça, qui montre une chose à laquelle donc voilà l'argument que je vous ai donné, c'est-à-dire qu'en déformant un polyèdre continuellement, sans changer la longueur de ses arêtes, son volume ne peut sauter d'une racine à l'autre. Donc on a bien que le théorème du soufflet, à savoir que le volume d'un flexaèdre ne change pas dans sa déformation, et donc ça justifie le titre de mon exposé, les flexaèdres ne fument pas. Alors la chose qui est tout à fait intéressante, c'est que la méthode de preuve pour cette démonstration, ce qu'on a regardé, c'est un problème purement de géométrie, et en fait cette démonstration est complètement une technique d'algèbre pure. Et quand on regarde la technique qu'on utilise, elle est complètement étrangère à la question géométrique posée. Donc ça, c'est vraiment une chose qui apparaît souvent en mathématiques et qui fait dire aux mathématiciens que les mathématiques continuent à garder leur unité. Quand on apprend les mathématiques, on a l'impression qu'on fait de la géométrie, qu'on fait de l'algèbre, qu'on fait de l'analyse, qu'on fait des probabilités. Mais c'est pas évident qu'il y a un lien entre toutes ces théories. En particulier, on a l'impression que plus on avance, plus on rentre dans des choses difficiles, disons, ces théories deviennent différentes les unes des autres. Elles ont d'abord dans leur formulation, dans les objets qu'elles regardent. Et en fait, ça, c'est une idée très fausse. Et en fait, les dernières années, enfin les 30 ou 40 dernières années, ont apporté des preuves extraordinaires de l'unité des mathématiques, alors qu'il n'y a pas du tout une unité statique. C'est-à-dire, c'est pas que les mathématiques sont immuables, ne changent pas du tout. Leur champ se transforme en permanence. Et non seulement il se transforme en permanence, mais même si j'ai envie de dessiner les mathématiques comme un continent et que je place un certain nombre des sujets mathématiques sur ce continent, en fait, c'est une mauvaise image parce que la proximité de certaines parties des mathématiques varie constamment autour du temps. Et en particulier, le XXe siècle a été une période de synthèse incroyable entre la géométrie et l'analyse, voire entre la géométrie et les probabilités. Et donc ça, c'est un exemple typique d'une situation où une question purement géométrique, en fait, trouve sa solution dans des considérations algébriques. Alors, donc, comment ça se fait ? Enfin, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais en tout cas, la technique de base, c'est qu'évidemment, puisque caché derrière, il y a une décomposition de votre polyèdre en tétraèdre, c'est qu'on va essayer de partir de la formule de Tartaglia et on va faire des extensions successives. Et cette notion d'extension est très très importante en théorie des nombres et elle fait apparaître ce qu'on appelle la théorie algébrique d'évaluation. Et il y a vraiment, cette façon de faire qui vous rapproche d'idées qui sont plutôt des idées algébriques. Et alors évidemment, d'où sort l'usage du patron, comme j'ai dit, faut aussi que vous regardiez les règles par lesquelles vous recollez les côtés. Et bien ça, c'est un peu ce qui décrit la complexité du polyèdre, puisque c'est suivant les règles de recollement sur le patron que c'est ça qui va donner finalement, la complexité du polyèdre. Donc voilà, ça c'était un exemple donc d'une situation géométrique bien caractérisée. Un problème géométrique. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on a regardé ce problème ? Ben, comme souvent en mathématiques, et c'est ça ma conclusion, on s'est intéressé à ce problème en partie parce que c'était un peu problématique de voir qu'on avait ce grand théorème de Cauchy, un polyèdre convexe et forcément rigide, et que, comme toujours, quand on a énoncé un théorème en mathématiques, on essaye de savoir ce qu'il advient de ce théorème quand on enlève une des hypothèses. Donc là, l'hypothèse qu'on enlevait, c'était convexe, et on voulait savoir si on gardait la rigidité. Et c'est paradoxal que sur ce problème, un problème aussi simple, donc je vous rappelle, le théorème de Cauchy, c'était 1813, il est fallu 160 ans, un peu plus de 160 ans, pour arriver à construire un objet aussi concret que le flexaèdre qui est ici. Et après, vous avez vu comment les choses se passent, c'est-à-dire quelqu'un comme dans un problème comme celui-là où il s'agit de construire des exemples, après on cherche à trouver l'exemple le plus simple. Donc on est parti d'un polyèdre, d'un flexaèdre à 18 sommets pour finalement aboutir avec Klaus Steffen à un polyèdre à 9 sommets. Et comme je vous ai dit, peut-être un jour un polyèdre à 8 sommets, mais ça c'est une question qui est ouverte. Et donc on était parti de cette situation-là, et puis après est apparue cette question supplémentaire, qu'advient-il du volume des flexaèdres quand on les déforme? Et là, vous voyez que finalement cette question a trouvé une solution qui est bien plus générale que la question qu'on s'était posée. On s'était posé la question, juste quand je fais cette déformation, est-ce que, de certaine façon, le volume intérieur change? Mais finalement, ce qu'on trouve, c'est quelque chose qui a une valeur bien plus grande, qui est qu'il existe une formule qui permet, à partir du patron d'un polyèdre, de calculer son volume. Et ça, c'est évidemment d'une portée beaucoup plus générale, beaucoup plus profonde que la question initiale, qui était presque une anecdote. Donc c'était là-dessus que je voulais terminer, c'est-à-dire de dire que dans la méthode scientifique, dans le travail du chercheur, bien souvent, la curiosité pure, la question de Dennis Sullivan sur le fait que si je mets de la fumée dans le polyèdre, la fumée ne sort pas, peut aboutir à une connaissance dont la portée est infiniment plus grande que la question initiale qu'on a posée. Et donc ça c'est une chose qui est permanente, dans laquelle les problèmes se constituent souvent à partir d'interrogations, et une interrogation amène à la solution d'un problème infiniment plus général et profond que la question initiale. Et ça, c'est en permanence qu'on vérifie ce genre de situation. Merci.
Voilà, j'ai un micro, donc on va vous laisser une série de questions sur tout ce que vous voulez, sur l'exposé, sur les mathématiques, sur le métier de chercheur, donc tout ce qui peut vous intéresser, Jean-Pierre Bourguignon est là pour vous répondre. Il faut qu'il y en ait un qui se lance, c'est toujours pareil. Hein.
Vous n'avez pas désigné d'office le premier qui devait poser la question, c'est la façon de résoudre le problème, habituellement.
Vous levez la main, puis je vous emmène le micro, c'est pas dur. Moi, j'ai en commencé une, alors je peux bien poser la première, mais comment on devient ce que vous êtes aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans votre enfance, ou qu'est-ce qui a déterminé une carrière de chercheur en mathématiques? Ou ça aurait pu être une autre carrière, d'autre chose, mais quels sont les facteurs qui ont déterminé que Jean-Pierre Bourguignon est devenu un chercheur, puis après directeur à l'IHES? Voilà.
C'est toujours une histoire un peu compliquée, mais vous allez voir que vous allez peut-être vous y retrouver, tout à fait. Moi, j'étais... toute ma famille est originaire de la campagne, donc j'ai passé pas mal de temps... Mon père était le seul d'une grande famille qui vivait à la ville, et donc j'ai passé tous mes étés à être plutôt fermier que quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, pour moi, les études étaient vraiment importantes, mais pas les mathématiques. Donc, disons que j'avais de bons résultats en mathématiques, mais ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la littérature et la philosophie, jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale, brusquement, il faut que je vous dise que j'ai eu le même professeur de mathématiques pendant 5 ans sur 6 quand j'étais au collège et au lycée. J'étais dans un établissement qui était un mélange de collège et de lycée, dans une ville qui s'appelle Lyon. Et donc, brusquement, donc j'ai changé en terminale, je me suis retrouvé dans un autre lycée, et là, pour la première fois de ma vie, je ne comprenais rien. Et le signe que je comprenais rien, c'était que ma première note, mon premier examen de mathématiques en terminale, c'était 1,5 sur 20. J'étais pas le dernier, parce qu'il y avait des quarts et des zéros. Et donc, brusquement, il se trouve que le professeur que j'avais était un très grand mathématicien. Je veux dire, c'était clair que quand il racontait des choses, il y avait des choses derrière. Il y avait de l'épaisseur, mais pas un grand pédagogue. Et donc, brusquement, ça commençait à m'intéresser parce que ça résistait, je savais plus faire, donc il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux mathématiques. Je dois dire que peut-être que j'aurais pas persisté autant si j'avais pas eu en même temps, en terminale, un professeur de physique qui, lui, au contraire, m'avait pris sous son aile et voulait me faire préparer le concours général de physique. Et du coup, me montrait quand même que je savais quelques petites choses. Mais pendant les cours de mathématiques, je souffrais beaucoup. Et alors, pour vous dire que cette attraction n'était pas simplement pour moi, mais il se trouve que à ce moment-là, j'étais très ami avec quelqu'un dont peut-être vous connaissez pas le nom, mais qui est un acteur assez connu, qui s'appelle Bernard Ballet, de la troupe de Marcel Maréchal. Et Bernard, à ce moment-là, passait déjà ses soirées à jouer au théâtre. Et donc, lui, il a eu la même fascination que moi de dire, ce monsieur, vraiment, on comprend pas ce qu'il raconte, mais il raconte quelque chose d'intéressant. Et donc, on a commencé à travailler tous les deux. Lui, après, a baissé pied parce que jouer au théâtre tous les soirs, ça mange de l'énergie. Et donc, finalement, il est devenu un acteur. Bon, moi, du coup, je me suis mis à faire des maths. Mes notes de maths ont quand même remonté. Mais quand même, c'est à la limite que j'ai pu rentrer dans une classe préparatoire parce que, franchement, j'avais quand même commencé par 1,5 sur 20, quoi. Donc, c'est ça qui était déterminant pour moi. C'était de rencontrer quelqu'un qui visiblement parlait de choses intéressantes, importantes, que je ne comprenais pas et qui m'ont provoqué d'une certaine façon. Alors vous voulez voir que mon chemin a failli bifurquer, donc j'étais dans les classes préparatoires, donc j'ai préparé les concours et j'ai eu une classe de mathématiques supérieures absolument idyllique parce qu'en fait, le fait que j'ai séché l'année d'avant, que j'ai eu beaucoup de difficultés, m'a donné un avantage sur mes camarades considérable parce que j'avais réfléchi à tout un tas de choses au fond et pas simplement je m'asseyais, je faisais un exercice et je trouvais la solution, ce à quoi j'étais habitué avant, mais en terminale c'est pas ce qui s'est passé du tout. Et par contre en terminale, en mathématiques spéciales, donc l'année des concours, je me suis retrouvé avec un professeur de mathématiques, là encore un très très bon mathématicien, mais dont la méthode pédagogique a été totalement destructrice en ce qui me concerne, puisque sa technique était, je ne sais pas comment la résumer, mais en gros la méthode de la terreur, c'est-à-dire qu'en gros il notait les élèves en fonction de ce qu'il attendait d'eux. Donc s'il avait une bonne image de vous, c'était terrible, parce que de toute façon, vous aviez des sales notes. Et s'il considérait que vous n'étiez pas capable de faire grand-chose, vous aviez des bonnes notes. Donc, pour déstabiliser, c'est génial. Et je dois dire que j'ai même eu une période où j'étais vraiment en dépression assez sérieuse. Je suis quand même arrivé à passer les concours et à intégrer une école. Bon. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des mathématiciens extraordinaires, Gustave Choquet d'une part et Laurent Schwartz d'autre part, et du coup mon goût des mathématiques a repris le dessus. Mais quand j'étais rentré dans cette école, je considérais que j'étais pas capable de faire des maths professionnellement parce que visiblement c'était voilà. Et donc j'ai commencé à chercher à faire plutôt de la mécanique que des mathématiques parce que je pensais que j'étais pas capable d'être mathématicien. Et il se trouve que j'étais élève à Paris, donc pendant les événements de mai 68, ce qui est une période un peu agitée, comme peut-être vous le savez quand même. Et c'est vrai que quand je me suis adressé à des mécaniciens, chercheurs, pour qu'ils me prennent en thèse, en fait là il y a eu un choc culturel. Les mathématiciens étaient quand même en gros des gens, comment dire, qui avaient, participé au mouvement de mai 68. Alors que les mécaniciens étaient quand même franchement des gens qui avaient résisté au mouvement de mai 68. Et donc le premier contact que j'ai eu avec les mécaniciens, tous m'ont dit la même chose. Moi j'arrivais avec des idées, j'avais déjà lu des textes, je voulais faire des choses, j'avais des idées de problèmes à résoudre. Ils m'ont dit mais attendez monsieur, c'est pas comme ça que c'est la règle du jeu, c'est nous qui vous donnons un sujet et après on verra. Bon, et du coup je suis parti, je suis revenu faire des maths. Donc vous voyez que ce cheminement n'est pas du tout un cheminement linéaire. Il y a plein de moments où j'aurais pu faire autre chose. Je me dis d'ailleurs que peut-être qu'il faudrait que je fasse de la mécanique sur la fin de ma vie, ou que je me remette à la littérature ou à la philosophie. Alors en fait, la philosophie un petit peu, parce qu'il se trouve que parmi mes fonctions annexes, Je suis président du comité d'éthique du CNRS, qui, je dois dire, est un des moments les plus intéressants, je trouve, de ma carrière de chercheur, de pouvoir animer. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, que j'ai rencontré Françoise Héritier, qui était membre du comité d'éthique. Alors, on était à ce moment-là membres ordinaires tous les deux. En ce moment, je suis président, donc avec une petite responsabilité supplémentaire de faire que les choses avancent, ce qui n'est pas toujours simple. Mais ce qui est passionnant dans le comité d'éthique du CNRS, c'est la diversité des gens, diversité de leurs expériences personnelles, diversité des opinions et le respect mutuel que les gens disons, manifestent les uns envers les autres, qui fait que les discussions sont souvent extrêmement serrées, mais vraiment intéressantes. Donc voilà ce dressé à grands traits pour vous dire que, vous savez, ce qui est important dans la vie, enfin en tout cas j'ai eu en tout cas le plaisir de pouvoir le faire, c'est de faire les choses qui vous passionnent. Et donc alors c'est vrai que la vie que ma génération fait à vous n'est pas forcément la meilleure. Dans mon cas, la situation était beaucoup plus simple. Disons, si moi j'étais plutôt dans la situation quand j'ai commencé ma carrière, j'avais plutôt 5 offres pour faire des choses que 0. Et je sais que malheureusement pour vous, on vous fait tirer la langue plus longtemps. Enfin, vous ne le savez pas encore, mais vous allez bientôt le voir. On vous fait tirer la langue plus chez des enfants qui sont plus âgés que vous. Nettement plus âgé que vous, et qui, effectivement, je vois le nombre d'obstacles qu'on fait sauter pour arriver à confirmer finalement donner un emploi stable, permettant aux gens de, disons, confirmer leur goût, leur passion, etc. En tout cas, en ce qui me concerne, donc, les mathématiques, je les ai découvertes. Je faisais des mathématiques facilement, mais je ne trouvais pas ça intéressant. C'était pas difficile. Je trouve qu'à un moment, ce qui est important dans la vie, c'est de faire des choses qui vraiment vous motivent. Alors maintenant, la direction de l'IHES, ça, c'est une aventure un peu différente. J'ai toujours, dans toute ma vie professionnelle, plusieurs vies, c'est-à-dire une vie scientifique au sens strict, mais aussi une vie de responsabilité, de diverses sortes, d'animation, de diverses choses. Et j'ai aussi, grâce au CNRS, je dois dire, c'est vraiment au CNRS que je dois ça, pu très tôt, alors que ce n'était pas du tout naturel vu mon origine, voyager dans le monde. Et donc, avec mon épouse, nous sommes donnés comme règle de vie à un moment que tous les 4e années, nous les passions à l'étranger. Donc on a été comme ça aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, etc. Donc au bout d'un moment, disons, ça permet de découvrir le monde de façon beaucoup plus large. C'est une période qui, enfin, je parle des périodes des années 70, qui est quand même pas tout à fait comme maintenant, où le monde est immédiatement à votre porte, tout le temps. Les voyages sont quand même beaucoup moins chers qu'ils n'étaient. Internet vous apporte tout quand vous voulez, c'est presque sans effort. Mais en tout cas, cette dimension d'ouverture a été importante pour moi. Et c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé président de la Société mathématique de France, donc dans les débuts des années 90. Et alors, comment je me suis retrouvé directeur de l'IHES? Eh bien, je dirais vraiment par hasard. La règle du jeu de cette maison, c'est que c'est les professeurs qui choisissent leur directeur. Donc un jour, j'ai reçu une lettre du président du conseil d'administration m'offrant le job. Ma réaction immédiate était de dire « c'est pas pour moi », puis de m'enseigner quand même. Et puis finalement de m'y coller, quoi. Voilà. Alors la vie d'un directeur d'institut, c'est un mélange compliqué, en tout cas un institut comme l'IHES, qui est une petite maison, c'est pas plus de 50 personnes, les personnels scientifiques stables, c'est pas plus de 10 personnes. Et après ça, il y a cette noria de visiteurs. La vie d'un directeur, c'est un mélange compliqué de sciences quand même. En particulier, j'ai la responsabilité de recruter les nouveaux professeurs, ce qui n'est pas complètement une chose simple. J'ai eu le privilège d'en recruter 3, dont 2 mathématiciens, et ces 2 mathématiciens ont reçu la médaille Fields, donc je ne suis pas trop mécontent. Mais évidemment, c'est un travail collectif qu'on a préparé, on a beaucoup discuté, etc. Et puis, il y a un autre volet qui est être patron, pratiquement patron d'une PME, quoi. Puisque l'IHES, c'est une structure privée, c'est une fondation privée. Et donc, je consacre beaucoup de mon temps, probablement un peu plus de la moitié, simplement à trouver de l'argent. Alors trouver de l'argent pour l'IHES à cause de sa nature, ça veut dire trouver de l'argent dans le monde entier. Donc ça veut dire que je voyage beaucoup. Alors ça paraît un privilège fantastique. Bon, quand vous prenez l'avion trop souvent dans l'année, vous trouvez que c'est pas un privilège fantastique, mais que c'est plutôt usant et pas complètement satisfaisant. Mais bon, ça fait partie du métier, je ne peux pas échapper. Personnellement, j'ai passé beaucoup de temps dans les 10 dernières années, dans la continuité de choses antérieures, dont je vais dire un mot tout de suite, en Asie. Parce que c'est en Asie qu'il se passe les choses les plus extraordinaires sur le plan de la science en ce moment, en particulier en Chine. Et donc, j'ai fait une trentaine de missions en Chine, donc c'est un pays que je commence à connaître pas mal. Ma première visite était en 1981, donc dans un autre monde qui n'avait absolument rien à voir avec celui que la Chine est aujourd'hui. Mais je dois dire que la dynamique qu'on trouve en Chine est assez passionnante à voir se développer. Et en particulier, l'ambition des jeunes Chinois et leur détermination à faire des choses que je trouve assez fascinante à voir se développer. Donc voilà, raconté à grands traits. Et donc vous voyez que c'est chaque fois, je crois que c'est une chose très importante à garder dans la tête, c'est il y a des occasions qui se présentent, il faut savoir les saisir, il y a des bifurcations qui apparaissent, il faut savoir les identifier et les suivre. Presque toutes les fois qu'on démarre quelque chose, on n'est pas du tout sûr d'y arriver, on est même plutôt sûr qu'on ne va pas y arriver. Et puis, bon, après, les choses se passent.
Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je n'ai pas posé tout le temps des questions, parce que moi, j'en ai plein. Moi, je pourrais rester 3 heures avec Jean-Pierre Bourguignon, j'en aurais encore à lui poser. Moi, je pense, en fait, on est entre nous, je pense que quand on a un chercheur comme ça, je le vois tout le temps, en fait, quand on soit François Zeriti ou d'autres, je pense que vous avez la chance d'avoir face à vous Jean-Pierre Bourguignon ou d'autres qui sont quand même des... C'est quand même des monstres de la science ou...
Non, ça, c'est pas vrai du tout. N'écoutez pas.
Il faut que vous osiez poser des questions. Je pense que j'aurais rêvé, moi, être élève et rencontrer des gens comme ça parce que j'aurais forcément des questions. Même si elles vous paraissent bêtes et vous vous dites « je vais pas la poser, elle est trop bête », je pense que c'est dommage de pas en poser. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Maxime, voilà. Je suis en terminale S et je voulais savoir quel est le problème le plus difficile que vous avez rencontré pendant votre carrière.
Vous voulez dire en termes techniques, c'est-à-dire de mathématiques ou... Ah. Beaucoup. Il y a encore des problèmes que je ne sais pas résoudre et sur lesquels j'ai vraiment réfléchi déjà pas mal de temps et disons, je réfléchis périodiquement à certains d'entre eux à nouveau. Peut-être l'un d'entre eux, justement pour vous montrer comment un résultat se trouve. Si vous voulez, quand vous vous intéressez à une question mathématique, par exemple, souvent une partie de... Donc par exemple, un des problèmes qui m'intéressait, c'était de comprendre certaines structures géométriques sur des objets mathématiques qui sont à 4 dimensions et qui, normalement, on impose un nombre de conditions géométriques et on voudrait que l'espace, la structure géométrique qu'on veut analyser, finalement, vérifie une équation beaucoup plus simple. Et typiquement, quand vous commencez à regarder un problème de ce genre, vous vous rendez compte que, visiblement, il y a certaines formules qui devraient vous permettre de passer de la formulation compliquée à la formulation simple, et qu'un jour, vous mettez la main sur une formule dont vous vous rendez compte que, à force, que vous pouvez la triturer de plusieurs façons et que chaque fois, elle vous donne des choses nouvelles. Donc là, vous avez le sentiment que vraiment, vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que vous avez vraiment un outil que personne n'a eu avant, qui va vous donner des faits que personne n'a vus. Alors, ce qui est très frustrant, c'est que le jour où vous avez mis la main sur un outil de ce genre, qui suppose déjà d'avoir travaillé un certain moment et d'avoir eu un point de vue que personne n'a eu avant vous, et puis que finalement, ça ne vous donne pas le résultat que vous voulez. Alors là, c'est vraiment horripilant, parce que vous avez le sentiment que vous avez mis dans la machine suffisamment d'idées nouvelles pour faire un progrès, et que, en fait, le progrès ne vient pas. Et donc j'ai vécu ça, c'était pendant un séjour en Allemagne que j'avais vraiment développé ça. J'avais commencé à en parler à un certain nombre de gens qui m'avaient dit « Ouais, ben avec ça, ça y est, tu vas trouver ce que tu cherches. » Et puis j'y arrivais vraiment pas, et là j'étais vraiment très très frustré, parce que vraiment là, c'était une chose que j'avais cherché longtemps, pour lequel qui était un théorème qui tout de suite vous établit dans la profession, donc on a envie que ça marche. Et bon, au bout d'un moment, comme toujours, on arrête, hein, on passe à autre chose, on se pose d'autres questions. Et brusquement, 2 ans après, en écoutant un exposé de quelqu'un d'autre sur un complètement autre sujet, j'entends quelqu'un énoncer une petite propriété, a priori en fait assez élémentaire, mais complètement dans un autre sujet. Et brusquement, pendant la conférence, j'ai d'ailleurs quitté la salle immédiatement, je me suis rendu compte que ce petit lemme qui venait d'être exposé, si je l'incorporais à mon raisonnement, j'avais la solution que je voulais. Et ça, je dois dire, c'était un sentiment de jubilation complète. Mais vous voyez que pour que ça ait pu se produire, il fallait 2 choses. D'abord, j'ai assez travaillé pour que, bien que je n'y pensais plus du tout à ce problème, je n'étais pas du tout en train de penser à ce problème, il restait quand même caché dans un coin de ma tête. Et puis, que j'écoutais avec suffisamment d'attention l'exposé où j'étais pour me rendre compte que le contexte dans lequel cette propriété était énoncée, qui n'était pas le mien, était très bien, mais que je pouvais en faire autre chose. Donc il fallait aussi que je sois dans une situation de, pas de passivité, mais de réactivité, pour pouvoir m'approprier ce qui était dit, même si c'était élémentaire, en fait, et que je puisse finalement terminer ma démonstration. Donc ça, c'est une première situation, si vous voulez, où la persévérance paye. Et ça suppose aussi que quand on a l'impression qu'on a fait quelque chose de substantiel, alors on peut quelquefois se leurrer, c'est-à-dire avoir la grosse tête, croire qu'on a eu une idée nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça. Ça arrive bien sûr. Mais quand même, ça c'est une chose qui est importante. Un autre exemple que je voudrais donner, qui là est une histoire un peu folle, qui veut dire que souvent, dans le sens contraire, on sous-estime ce qu'on a fait. Il se trouve qu'il y a eu une période vers la fin des années 80, où un certain nombre de travaux faits par des physiciens théoriciens et des mathématiciens se sont trouvés dans une situation de convergence extraordinaire. C'est-à-dire que c'est à partir des années 74-75 qu'un certain nombre de travaux faits par les physiciens se sont trouvés être la duplication complète de travaux faits des années auparavant par les mathématiciens. Les deux communautés se parlaient suffisamment peu pour que ça n'ait sauté aux yeux de personne que ce que les physiciens étaient en train de faire, en fait, était dans des livres écrits 10 ou 15 ans avant. Il se trouve que j'ai participé même à ces premiers contacts, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et on a eu un séminaire commun avec les physiciens où chacun disait « non, on n'a rien à se dire ». Parce que les gens racontaient ça dans leur jargon, et personne n'arrivait à voir le dictionnaire, fabriquer le dictionnaire qui faisait la correspondance. Quelques années plus tard, cette page était tournée, le dictionnaire était fabriqué. Et donc, parmi les questions que les physiciens posaient, qui étaient importantes sur le plan de la physique, qui étaient de montrer que certains niveaux d'énergie, que pour un certain système, on connaissait tous ces niveaux d'énergie, qui étaient les plus simples possibles, et les physiciens n'avaient pas de démonstration de ce résultat. Ils étaient sûrs que c'était vrai, mais ils ne savaient pas le démontrer. Et donc, comme j'étais un de ceux qui avait participé à ces premiers contacts, j'étais souvent sollicité par des physiciens pour faire les cours d'introduction à cette partie de mathématiques que eux voulaient apprendre. Donc j'étais dans cette situation-là. Il se trouve que cette année-là, était en visite à l'IHES. D'ailleurs, j'étais pas à l'IHES à ce moment-là du tout. Un ami mathématicien que je connaissais bien, qui passait 1 an. Et pendant toute cette année, on s'est parlé régulièrement. Mais je lui ai pas dit que sur la fameuse question des physiciens, je savais faire un petit bout du problème. Et puis, vers le mois de juin, puisque je devais faire un cours d'introduction du sujet à des physiciens, je me suis dit quand même, je vais lui dire ce que je sais faire. Et je vois encore la situation dans son bureau à l'IHES où je lui raconte ça. Il me dit, mais attends, mais toi, tu sais faire ça? Et lui savait faire exactement l'autre moitié du théorème. Donc, brusquement, simplement en se parlant, donc c'était simplement le fait que je n'osais même pas lui parler de ce que je savais faire, et lui, symétriquement, n'avait pas osé parce qu'il ne savait pas finir. Et on s'est rendu compte qu'à partir de ce moment-là, le théorème était fait. C'est-à-dire qu'on avait chacun la moitié de ce qu'il fallait pour finir le théorème. Et du coup, je pense que ça, c'est, en tout cas pour moi, pour lui, il a fait aussi d'autres choses, probablement le plus beau théorème que j'ai démontré dans ma vie. Mais vous voyez, donc c'est une situation où par timidité, on a perdu 1 an, parce qu'on aurait dû se dire ça dès qu'il était arrivé, c'est-à-dire dès le mois de septembre. Et il a fallu cette circonstance un peu particulière, que je devais préparer ce cours d'introduction, ce n'était pas du tout un cours avancé, que finalement j'ai osé lui dire, tu sais, au fait, je sais faire ça. Et lui m'a dit, attends, tu sais faire ça, mais moi je sais faire l'autre bout. Donc vous voyez, ces situations, d'abord qui supposent énormément de... Beaucoup de ces choses que je viens de vous dire reposent sur des relations personnelles, c'est-à-dire c'est pas un métier désincarné, même s'il y a des moments où on est devant sa feuille et on sèche, mais il y a beaucoup de choses qui tiennent à développer des relations avec les gens, savoir les écouter, savoir partager, ne pas être trop timide, croire en ce qu'on fait d'une certaine façon, sans exagérer, parce que aussi on peut croire qu'on a fait des choses intéressantes et en fait elles ne le sont pas. Donc c'est cet équilibre compliqué qui change suivant les moments, où il faut être à la fois conquérant et modeste. Enfin, c'est un peu délicat à expliquer, mais c'est quand même ça la situation. À côté de ça, la situation moyenne d'un mathématicien, pour vous rassurer tout à fait, c'est quand même de sécher. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas faire. C'est ça le quotidien. Et c'est pour ça que dans la méthode de travail, en tout cas à tous mes élèves, c'est une chose que j'ai essayé de leur transmettre, c'est assez important d'avoir en permanence trois problèmes qu'on regarde. Un qu'on est en train de finir, pour lequel on a en gros, on sait faire, on est en train d'écrire les détails. Un sur lequel on est vraiment en train de réfléchir, donc de sécher pour de bon. Et le troisième sur lequel on est en train d'apprendre. Donc on est en train d'aborder un nouveau sujet, on rencontre des gens qui vous expliquent les bases, on lit des livres, on va écouter des conférences, etc. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ces trois volets. Ben, vous voyez que la partie déprimante, c'est celle du milieu. On sèche, on ne sait pas faire. La partie rassurante, mais souvent un peu fastidieuse, c'est d'écrire les résultats qu'on sait faire. Et la partie, disons, la plus exaltante, parce qu'on est en train, on part dans tous les sens, on essaye de s'accrocher à tout, c'est la partie où on est en train de défricher un nouveau sujet. Et donc ça, c'est, disons, dans la façon de travailler, c'est important d'avoir ces trois composantes parce qu'elles ne stimulent pas exactement les mêmes fonctions du cerveau. Psychologiquement, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Une autre chose aussi qui est très importante pour les mathématiciens, peut-être plus que pour d'autres chercheurs, c'est l'enseignement. C'est une des raisons pour lesquelles, bien que je sois directeur de l'IHES, je continue à donner un peu de cours, parce que pour moi, le contact avec les étudiants est vraiment un moment extrêmement important, à la fois parce qu'ils sont impitoyables, donc on n'a pas le droit de se tromper, donc on doit être absolument prêt, et puis ils posent tout le temps des questions, ils ont envie de savoir des choses, ça c'est vraiment, enfin pour moi, extrêmement important et stimulant. Donc, vous voyez, toutes ces composantes humaines qui sont, alors évidemment, varient d'une personne à l'autre. Il y a aussi des gens qui sont monomaniaques, ils ont un seul problème qu'ils regardent, et c'est celui-là qu'ils veulent résoudre, souvent un problème très difficile, et c'est ça qu'ils font. Je dois dire que c'est quand même très risqué. Alors, des gens très forts peuvent se permettre. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça, mais il y a des gens aussi qui sont monomaniaques, ça existe, quoi. Il y a aussi des gens qui collaborent très facilement, d'autres moins. Moi, je n'ai pas de problème à collaborer. J'ai un peu de problème à collaborer à plus de deux personnes, mais bon, pour les mathématiciens, c'est quand même l'attitude standard, c'est plutôt soit des papiers à 1, à 2 ou à 3, mais pas des papiers à 15 ou à 20. C'est difficile de faire des maths à 15 ou à 20 vraiment sur un résultat donné. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Jean-Pierre, si vous le permettez, vous avez parlé à un moment donné que vous auriez bien fait un petit itinéraire vers la philosophie. Alors, j'ose vous poser une question qui est, finalement, les mathématiques sont-elles une invention de l'homme ou sont-elles déjà présentes dans la nature ?
Oui, alors c'est une question tout à fait importante, en fait, soigneusement cachée. Si on veut la résumer, c'est est-ce qu'on découvre les mathématiques ou est-ce qu'on les invente ? Découvrir les mathématiques, ça veut dire qu'il suffit de gratter, de regarder comme il faut, et les mathématiques apparaissent toutes construites. Et puis les inventer, ça veut dire que vraiment on insiste sur la dimension humaine des mathématiques, c'est-à-dire les définitions peuvent paraître même par certains côtés un peu arbitraires. On s'intéresse à certains objets et pas à d'autres. Et il y a d'autres objets mathématiques auxquels on devrait s'intéresser, pour lesquels on n'a pas donné vraiment de définition. Alors, comme vous savez, certains mathématiciens, que je pense à Alain Cohn en particulier, font une profession très très explicite donc d'être platonicien, comme on dit, c'est-à-dire considérer que les mathématiques, ça se découvre. Autrement dit, il y a une réalité mathématique qui est indépendante de la connaissance qu'on en a. Personnellement, j'ai beaucoup de peine avec cette position philosophique, pour la raison que j'ai énormément de peine à la relier avec le fait que nous vivons dans un monde dans lequel il y a un temps, donc il y a une évolution, et que si cette mathématique existe, cette réalité mathématique existe, elle est évidemment intemporelle, Et donc, comment mettons en relation un monde dans lequel le temps joue un rôle et puis cette réalité intemporelle? Donc ça, ça me pose des problèmes. Et alors, du coup, je suis quand même plutôt du côté de, enfin, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des gens qui considèrent que les mathématiques s'inventent. Autrement dit, que c'est un corpus de connaissances construit par les humains et qui est en fait, de ce point de vue-là, forcément très dépendant de son histoire. Et de ce point de vue-là aussi, je trouve que c'est très très dommage que la dimension historique des mathématiques soit très peu enseignée, pas parce que ça doit devenir un corps de doctrine, mais parce que c'est une façon de comprendre le cheminement des idées. Et en mathématiques, c'est un domaine où vraiment, comment dire, les progrès sont souvent simplement le fait de donner la bonne définition. Autrement dit, de focaliser son attention sur l'objet dans sa pureté. Et ça, c'est pas si simple. Et donc, voilà un peu ma position. Ça mériterait que, enfin, des développements un peu plus philosophiques, avec des outils philosophiques un peu plus élaborés. Mais ça a des conséquences quand même très concrètes. Parce que c'est vrai que le danger de l'approche qui consiste à affirmer que les mathématiques s'inventent, il est évident. C'est qu'on peut considérer qu'elles sont arbitraires et qu'on peut se mettre à s'intéresser à n'importe quoi. Or, on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont plus profondes, plus intéressantes que d'autres. Et quand on regarde, par exemple, l'évolution de la notion de nombre, et même les nombres entiers, qu'on continue à recéler tout un tas de mystères qui sont absolument sidérants, d'une certaine façon. Et les mathématiques, justement, c'est une élaboration conceptuelle qui permet d'introduire dans un... a priori dans un domaine qui est totalement informe, qui est le monde des nombres entiers, d'y trouver des structures, d'y trouver des coïncidences, d'y trouver des symétries. Et à ce propos, je voudrais vous encourager, parce que c'est vraiment un moment que je trouve personnellement assez émouvant et superbe de connaissances, à retrouver sur Internet, sur un site qui s'appelle Vimeo, une conférence d'Alain Cohn, qu'il a faite justement pour des jeunes lycéens comme vous à Paris, qui est justement où il explique sa conception, ce qu'il y a de commun, disons, des aspects géométriques de l'espace-temps, en particulier des physiciens, et les nombres entiers. Comment se fait-il qu'il y a une sorte des choses qui sont commensurables entre la répartition des nombres entiers et des propriétés qui intéressent les physiciens sur la structure de l'espace-temps? Et comment se fait-il que les mathématiciens élaborent des concepts pertinents pour les deux choses à la fois? Et dans la grande aventure qu'Alain Cohn a menée, qui est ce qu'on appelle la géométrie non commutative, justement, il a fait ça avec un succès extraordinaire. Donc si vous voulez voir, je peux vous trouver l'adresse exacte. Enfin, c'est sur le site qui s'appelle Vimeo. Le problème, c'est que le nom d'Alain Cohn n'apparaît pas, c'est simplement un numéro. Donc peut-être qu'il y a on peut chercher des noms, je ne suis pas sûr. Donc pour terminer là-dessus, cette dimension d'une réflexion philosophique sur les mathématiques, on peut penser que par rapport à l'activité mathématique, elle est secondaire. Je crois que ça ne l'est pas du tout, parce que c'est vraiment important que les mathématiciens se préoccupent justement des fondements de leur discipline. Et pratiquement dans l'histoire des mathématiques, toutes les fois qu'ils ont négligé de réfléchir sur leurs fondements, ils se sont trouvés confrontés à des crises graves. Il y en a eu plusieurs crises, celle fin du 19e siècle, début du 20e, où brusquement les mathématiciens qui pensaient être vraiment sur des bases solides pour discuter de leur discipline se sont rendus compte que ça n'était pas. Et même des gens comme Hilbert, qui a joué un rôle extrêmement important dans justement la rigorisation des mathématiques, est arrivé avec un principe qui s'est révélé d'une fausseté complète à cause des résultats de Gödel. Donc la théorie de Hilbert était très simple, c'est de dire que à partir du moment où on a formalisé les choses suffisamment, on saura. Mais vous voyez qu'une autre façon de dire ça, c'est que tout est démontrable. Et Gödel a démontré que c'est pas vrai du tout. Même avec des systèmes d'axiomes bien faits, on tombe sur des propriétés qui sont non démontrables. Et donc, quelle est la place de ces propriétés non démontrables? Qu'est-ce que ça dit sur les mathématiques? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de la réalité qui échappe aux mathématiques? Donc ça mérite une réflexion qui n'est pas de nature strictement mathématique, mais qui est plutôt de nature philosophique. Question au fond. Un abonné?
Est-ce que vous vous posez ce genre de questions en éthique scientifique ou pas du tout? ou ça touche un autre.
Pardon ?
Est-ce que vous posez ce genre de questions en éthique scientifique ou vous vous intéressez à d'autres sujets ?
Si vous voulez, typiquement les sujets que traite le comité d'éthique du CNRS, donc qui est, vraiment on s'intéresse à l'éthique de la recherche, donc il y a une dimension de l'éthique qui est celle qui fait plutôt la une des journaux, qui traite de la bioéthique, donc toutes les questions qui tournent autour des relations entre la recherche et en particulier la recherche en biologie et la société. Le comité d'éthique s'intéresse plus largement à des questions qui ont trait à la vie de la communauté scientifique et à ses relations avec la société. Donc je donne trois exemples, si vous voulez. Un des exemples qui est apparu récemment, qui est une chose qui est, disons, peut-être pas été perçue par tout le monde complètement. Je pense que vous avez entendu parler au moment où on a mis en place le RSA, du fait qu'on avait fait un certain nombre d'expérimentations pour savoir quelle était la façon de le définir qui induisait, disons, l'objectif du RSA est de ramener des gens au niveau à retrouver un emploi. Et donc, on a fait des expérimentations pour savoir quelle était la façon d'organiser le RSA pour maximiser le retour à l'emploi. Et parmi les attendus du projet de loi, si vous revenez au projet de loi tel qu'il a été voté, vous voyez que parmi les attendus, il est dit justement que les modalités qui ont été choisies aboutissaient à une amélioration du taux de retour à l'emploi du tiers et que du coup, c'était cette modalité qui avait choisi. Quand vous regardez plus en détail ce qu'il y a derrière, vous vous rendez compte que c'est s'appuyer sur des chiffres, des statistiques, donc qui avaient été menées lors d'expérimentations, qui en fait disait que dans un cas c'était 3,5%, dans l'autre cas c'était 5%. Donc il y avait bien un tiers, mais sur des chiffres totalement non significatifs. Donc c'est clair que sur le plan de la méthode scientifique, s'appuyer sur une amélioration du tiers quand en fait le résultat c'est 5%, c'est aberrant. Et donc on s'est rendu compte à cette occasion que beaucoup d'expérimentations sur des questions sociales, et qui était un sujet qui se développe pas seulement en France mais dans d'autres pays, étaient en fait des expérimentations qui ne méritent absolument pas le nom d'expérimentation. Pourquoi ? Parce que les chercheurs qui sont amenés à faire ces expérimentations, ce n'est pas eux qui définissent le protocole, mais qu'en fait, c'est les questions qu'on leur pose qui définissent le protocole. Or, un protocole expérimental doit être défini justement pour essayer de répondre à une question précise. Or là, ce n'était pas du tout le cas. C'était au contraire le cas où il y avait une commande, généralement par un pouvoir politique, et que ensuite les gens ne devaient simplement qu'exécuter répondre à la liste des questions qu'on leur posait, qui n'est pas du tout un travail de recherche. Donc du coup, on a produit un avis sur justement les conditions éthiques pour que une recherche en matière donc d'expérimentation sociale puisse être considérée comme un morceau de la recherche scientifique. Donc vous voyez, c'est une question qui peut paraître un peu technique, mais qui n'est pas du tout, parce que ça veut dire que en plus, l'autre chose qui se passe, c'est que pour les chercheurs qui travaillent en sciences sociales sur des questions de ce genre, les crédits habituellement disponibles pour la recherche sont des crédits assez minces, et brusquement, à cause des enjeux, les crédits qui étaient disponibles devenaient gigantesques. C'est-à-dire qu'on avait brusquement des crédits qui étaient 50 fois, 100 fois supérieurs aux crédits habituels. Et donc, évidemment, massivement, la communauté s'engage dedans. Mais s'engage, en fait, en perdant son statut de communauté scientifique, puisque brusquement, elle se met simplement à répondre aux questions qu'on lui pose, et qui n'est pas ça la définition de la méthode expérimentale. Ça, c'était un exemple. Bon, un autre exemple que je voudrais donner, qui cette fois, au contraire, met en cause très directement la communauté scientifique, qui est tout ce qui tourne autour des publications par des chercheurs, et en particulier, quelles sont les conditions, comme vous savez, suivant les disciplines, les règles qui régissent la façon dont, enfin, en tout cas, les règles acceptées par les communautés pour publier ne sont pas du tout les mêmes. Et simplement parce que ça correspond à des réalités de travail scientifique différentes. Quand vous avez des manips où il y a 200 personnes impliquées, évidemment, vous avez 200 auteurs. Et à ce moment-là, il y a des règles qui s'instaurent pour savoir l'ordre dans lequel on écrit les auteurs. Et évidemment, dans certains cas, être premier auteur ou être deuxième auteur ou être troisième auteur n'est pas du tout la même chose que d'être simplement par ordre alphabétique comme le font les mathématiciens. Et en particulier, parmi les pratiques, en tout cas que nous avons dénoncées, mais qui sont absolument courantes, le fait que le directeur du laboratoire, considéré comme quelqu'un qui a trouvé l'argent pour que les manies puissent avoir lieu, est toujours signataire des publications, même s'il n'a pas lu le papier et n'y a pas participé du tout. Et donc ça, on touche très directement à la signification qu'ont les produits, les publications scientifiques, qui sont quand même un des produits essentiels de la recherche, et disons comment la communauté se comporte vis-à-vis de ces publications. Donc, dans un avis qui a été donné par le comité d'éthique sur les publications, il y a évidemment, ces questions sont abordées et nous prenons des positions assez catégoriques sur le fait qu'il n'est inopportun que les directeurs de laboratoire signent toutes les publications d'un laboratoire. Dans le dernier exemple que je vous donne, qui est toujours du même genre, c'est que souvent, les chercheurs sont appelés comme experts. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conditions pour qu'on puisse exercer une expertise dans de bonnes conditions? Évidemment, la première condition, c'est d'être compétent, mais ça n'est pas du tout la seule condition. Parce que c'est tout à fait important que vous puissiez prouver, que vous puissiez établir de façon certaine que vous n'avez pas de conflit d'intérêts avec la question sur laquelle vous êtes demandé comme expert. Et ces conflits d'intérêts peuvent prendre des formes extrêmement diverses. Évidemment, la forme la plus directe, c'est on vous demande de faire une expertise sur, vous voyez ce qui se passe en termes de traitement de certains médicaments, on vous demande de faire une expertise et comme par hasard, votre recherche est payée par le laboratoire qui produit ce médicament. Donc là, c'est clair que c'est un cas évident de conflit d'intérêts. Mais les conflits d'intérêts peuvent prendre des formes tout à fait différentes. Si très régulièrement, certains de vos élèves vont faire des stages dans le laboratoire et que pour vous, évidemment, c'est très important que vos élèves puissent faire des stages. Vous voyez que c'est un conflit d'intérêts dans lequel il n'y a pas d'échange d'argent entre vous et le laboratoire, mais malgré tout, il y a une sorte de suggestion qui se crée. Donc, l'avis que le comité d'éthique a pu émettre consiste à analyser les diverses situations dans lesquelles l'expertise ne peut pas être mise en place en apportant toutes les garanties sur le plan éthique. Donc vous voyez, c'est une panoplie assez large de sujets. Par exemple, Françoise Héritier avait beaucoup insisté, il y a un avis du comité d'éthique qui porte là-dessus, sur comment peut-on faire quand on fait des expériences dans des populations comme elle le fait elle-même, pour respecter ces populations. Et il y a des choses qui paraissent évidentes et qui vont de soi d'une certaine façon, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles quant à la façon dont une intervention extérieure introduit une perturbation dans la vie d'une communauté qui en fait devient une perturbation destructrice. Donc comment fait-on pour identifier a priori ces questions? Un autre sujet aussi qu'on a abordé autour de l'informatique par exemple, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport au spam qui arrive dans les boîtes aux lettres en permanence, mais il est clair qu'il était possible de définir des protocoles de transmission d'informations qui en gros auraient rendu le spam à peu près impossible. Ces protocoles n'ont pas été mis en place, donc maintenant tout le système du réseau fonctionne suivant les règles suivant lesquelles il fonctionne, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu la moindre réflexion en amont sur les perversions qui pouvaient rendre l'usage du réseau, comme on le sait aujourd'hui, quand même infiniment désagréable. Et en fait, comme vous savez, c'est pas seulement désagréable, mais il y a des gens qui en tirent de l'argent de ce désagrément. Donc vous voyez que c'est un cas où, par l'absence d'une réflexion en amont sur des objets de recherche comme les protocoles de transmission d'informations par Internet, en fait, on crée des conditions qui deviennent une nuisance sociale et qu'on aurait pu éviter si dans la réflexion en amont, on avait introduit la question de l'usage social de l'invention technique qu'on faisait. Et très souvent, on a tendance à aller au plus court, c'est-à-dire, ok, on a fabriqué le web, mais après, le web devient un objet d'usage social, et brusquement, il y a des diversions qui apparaissent, et qu'en fait, on aurait pu anticiper si on avait passé le temps qu'il fallait à réfléchir sur ces dimensions-là. Et ça, c'est une dimension éthique évidente, puisque ça veut dire que dans la responsabilité des chercheurs, il y a en amont la responsabilité de se préoccuper de l'usage qui va être fait de leur recherche.
Il ne va pas y avoir beaucoup de questions, il faut que ce soit à peu près les deux dernières, parce que de toute façon, il va falloir que vous rentriez aussi.
Personne n'a envie de devenir chercheur, c'est pas possible ça.
Une question pour faire écho justement à la conférence de Madame Françoise L'Héritier, et en particulier quand je regarde l'Assemblée ici présente, où il y a très très peu de filles.
Quand même, j'en vois quelques-unes.
Enfin, ne sont pas majoritaires, on va dire.
Allons-y,
enfin, on n'est pas encore à une assemblée de 50% à peu près de femmes. Quelle est la place au niveau de la recherche des mathématiques? Y a-t-il des chercheuses en mathématiques? Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas et ne sont pas visibles sur les publications en particulier, sur les dernières médailles Fields par exemple?
Alors, je vais vous révéler quelques secrets. Alors, d'abord, je crois que la situation est une situation qui évolue, pour moi dans le bon sens, c'est-à-dire avec plus de femmes qui sont impliquées dans la recherche mathématique. La situation est très variable d'un pays à l'autre. Il y a des pays dans lesquels la place des femmes en recherche en général et en mathématiques en particulier est très considérable, et d'autres dans lesquels elle est beaucoup moins considérable. La France se trouve dans une situation un petit peu intermédiaire, dans lesquels, dans le monde universitaire mathématique, les femmes représentent aujourd'hui à peu près 25% du personnel, souvent, malheureusement, pas forcément dans les échelons les plus élevés. Mais en tout cas, il existe en France de mathématiciennes exceptionnelles. Je vous citais à table à midi l'exemple de Claire Voisin, qui vient de rentrer à l'Académie et qui est une mathématicienne absolument extraordinaire. Par ailleurs, entre parenthèses, mère de 5 enfants, donc la maternité n'est pas du tout un obstacle à être une mathématicienne de très haut niveau. Et en tout cas, moi, je suis très content qu'elle ait accepté d'être la rédactrice en chef du journal dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est les publications mathématiques de l'IHS. Et ce journal est quand même le journal numéro 1 dans le monde en mathématiques. Donc vous voyez que la rédactrice en chef de ce journal est une femme. Et puis deux signaux quand même très importants et à mon avis, pas du tout anodins. Pour la première fois, la présidente de l'Union mathématique internationale est une femme. C'est une Belge qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Ingrid Dobuschi, mathématicienne remarquable, qui était professeure à Princeton, qui vient de changer d'université. Et là, pour la première fois en même temps, dont ils ont pris leur fonction la même date, au 1er janvier 2011, la présidente de la Société mathématique européenne, dont j'ai été le deuxième président, est une femme aussi, qui s'appelle Marta Sansolé, qui est une probabiliste qui travaille à Barcelone. Donc vous voyez que, d'abord, la place dans des postes de responsabilité des femmes grandit. Un certain nombre de pays font des efforts très très délibérés pour promouvoir les femmes. Dans d'autres pays, c'est encore, disons, extrêmement... Il y a encore beaucoup de travail à faire. En France, il reste du travail à faire. Mais on n'est pas dans une situation, si vous voulez, dans laquelle les femmes mathématiciennes sont ignorées ou invisibles. Elles devraient être plus visibles et elles devraient être plus reconnues. Mais malgré tout, je pense qu'on est quand même dans une dynamique positive de ce point de vue-là. Donc il y a encore du chemin à parcourir, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience d'une part. Alors peut-être une chose qui est un bémol, mais qui est justement qui montre que ça se passe autrement. Actuellement, les pays dans lesquels les femmes occupent en mathématiques la place la plus importante sont malheureusement souvent des pays dans lesquels justement les positions universitaires sont les moins bien considérées dans la société. Donc ça veut dire que la féminisation s'accompagne d'un manque de reconnaissance du métier. Mais quand même, de plus en plus de pays sont conscients de ça. Personnellement, j'étais l'année dernière, enfin en décembre 2009, dans un jury d'un concours en Chine qui était pour des jeunes qui faisaient des projets de mathématiques, 800 projets à l'échelle du pays, et j'étais dans le jury qui jugeait les 17 finalistes. Et dans les 17 finalistes, quand on regarde ceux qui ont eu les plus grands prix, il y avait une majorité de filles. Donc c'était quand même tout à fait intéressant. En particulier, le plus grand prix était une équipe dans laquelle il y avait 3 filles et 1 garçon. Alors non, ce secret que j'allais vous révéler, mais vous ne le répétez pas, c'est que, parce que c'est une information discrète, c'est que pour la première fois dans le sprint final des gens qui pouvaient être considérés pour la médaille Fields, donc qui était composé de 8 personnes, il y avait une femme. Voilà. Donc on progresse doucement. On progresse doucement.
En fait, on va être obligé d'arrêter. Parce qu'il est moins le quart, le temps que vous rentriez. Moi, j'aimerais que vous applaudissiez très fort Jean-Pierre Bourguignon pour le remercier.
Merci.